15h, vous écoutez Fréquence Mistral et c'est l'heure de l'émission des lecteurs sous les toits. Bonjour à tous.
Bonjour Emeline, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être entourée par Alphonsine, Olivia, David, Nathanaël et nous allons vous parler de 7 ou 8 livres dont nous vous avons présentés au comité de lecture de mardi dernier, 21 février, à la médiathèque de Manosque. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par un livre qui s'appelle « Marx et la poupée », qui a été écrit par Marianne Majidi, paru au Nouvel Attila en 2016. Et ce roman a une petite histoire, c'est Olivia qui va vous le présenter, mais on l'avait découvert avant sa parution. Olivia, tu peux nous présenter Marx et la poupée ?
Oui, alors il y a trois parties dans ce livre, première naissance, deuxième naissance, troisième naissance. Alors je vais vous parler de la première naissance, l'auteur qui est la narratrice est iranienne, et elle pousse dans le ventre d'une femme, sa mère, qui est très impliquée dans la révolution, avec son père, ils sont marxistes. Et dans une université, ils sont poursuivis, menacés. Et enceinte d'un bébé de 7 mois, elle doit sauter du second étage, hésite, se retourne, et son regard se fixe sur ses bâtons. Elle sent déjà les clous s'enfoncer dans sa chair. Elle saute. Elle saute et je tombe. Tu es suspendue en l'air et c'est moi qui tombe. Dès le départ, elle vit la révolution dans le ventre de ses parents. Mais plus que ça, ses parents souhaitent qu'elle soit élevée selon ces idées-là. Et alors que sa grand-mère lui a rapporté une poupée d'Allemagne, auquel elle est très attachée, un jour ses parents lui imposent de donner ses jouets à tous les pauvres du quartier, et ainsi que cette poupée.
Alors c'est peut-être le titre, Marx et la poupée.
Voilà, ce qui explique le titre. Et dans cette famille, évidemment, ils ont tout un réseau d'amis et dans cette famille, beaucoup sont impliqués dans cette révolution. Beaucoup sont en prison, certains vont mourir et l'enfant est mêlé à toute cette atmosphère. Quand elle va avoir à peu près 6 ans, c'est la deuxième naissance, c'est l'exil. Alors ça, c'est une drôle de naissance. C'est plutôt une grande épreuve. Et pour preuve, je vous donne les titres, parce que les titres sont très parlants dans ce texte. Moi je ne joue pas, moi je ne parle pas, moi je ne mange pas. Ceci vous dit tout sur la difficulté à se retrouver dans une chambre de bonne en plein Paris. Avec une mère qui était super active, qui faisait des études et qui se retrouve toute seule dans un pays dont elle ne parle pas la langue, enfermée. Donc cette deuxième partie va être la plus difficile. Mais finalement, cette petite fille va finir par parler de manière excellente la langue française et par beaucoup s'y intéresser. Par contre, elle ne veut plus parler le persan. Son père veut le lui apprendre et elle ne veut plus. Elle est très butée là-dessus. Et je vais vous lire quelques phrases de... Oui, parce que cet auteur a une langue, une écriture très imagée. C'est pour ça que ce livre est extrêmement vivant, passionnant, très bien écrit. Des chapitres très courts. C'est donc la lutte des langues. Vous allez reconnaître le français et le persan. Oublie cette vieille folle bégayante et laisse-la balbutier son charabia. Je t'offrirai un monde d'intégration, de reconnaissance, de réussite. Je t'offrirai la réconciliation et l'apaisement. Puis un peu plus loin, je ne suis pas la langue de ta mère, je suis ta mère dans la langue. Écoute-moi ça, ça veut rien dire. Je te l'ai dit, c'est que du charabia. Tu reviendras vers moi, vers mes lettres ondulantes, vers ma musique douce et plaintive, vers ma poésie aussi. Et en fait, finalement, le persan va finir par trouver sa place dans la vie de cet enfant devenu femme. Et c'est donc la troisième naissance, c'est la réconciliation avec le persan. Et elle va même tomber carrément amoureuse et approfondir la poésie persane. Je vous recommande vraiment ce livre, Marx et la poupée. Je crois qu'il peut être mis dans toutes les mains parce que c'est une lecture très aisée et très riche. Pleine d'images à l'orientale, elle raconte des histoires pour nous faire comprendre ce qu'elle vit.
En plus, ce roman nous tient particulièrement à cœur, car pendant les dernières correspondances de Manosque, nous avons reçu l'éditeur Benoît Viraud, qui nous avait confié le manuscrit de ce livre, qui à l'époque ne s'appelait pas « Marx et la poupée », mais « Comment peut-on être persan ?». Et il nous avait confié ce manuscrit avec trois autres, pour que nous fassions un comité de lecture autour de ces quatre manuscrits, savoir si nous, lecteurs, nous recommandions la parution de ces livres ou pas. Et nous avions été unanimes pour dire que « Comment peut-on être persan ?», donc devenu Marx et la poupée, avait tout à fait lieu d'être édité, mais on avait apporté des critiques, puisque c'était notre rôle. Et je pense qu'il va être intéressant de comparer le manuscrit que nous avions eu avec le texte définitif. Et je pense que nos critiques ont aidé Benoît Viraud, l'éditeur, l'auteur dans son travail de réécriture. Voilà, c'était Marx et la poupée de Mariam Majidi, paru au Nouvel Attila. Alphonsine va maintenant vous présenter « Moi, Malala ».
Alors, « Moi, Malala » est une autobiographie parue en 2014 par Malala Yousafzai, en collaboration avec Patricia McCormick et Christina Lamb, qui est journaliste au Sunday Time. Ce livre existe aussi en audio. Donc, Malala est née en juillet 1997 à Mingora, dans la vallée du Swat, situé au nord-ouest du Pakistan. C'est un très beau lieu touristique. Et donc, dans cette première partie, Malala raconte son enfance en famille, son père qui est poète et qui milite déjà pour la paix. Il ouvre des écoles mixtes. Il rencontre de nombreuses difficultés administratives, mais aussi financières, car il n'est pas un très bon gestionnaire. Mais l'intrusion des talibans dans la vallée va provoquer une véritable catastrophe. Donc il y a l'application de la charia, le couvre-feu, l'incendie des écoles, autodafé de livres, interdiction faite aux filles d'aller à l'école, assassinat des opposants. Mais c'est à l'âge de 11 ans que Malala, elle, va commencer son témoignage sous un pseudonyme de toutes ces exactions commises par les talibans sur un site de la BBC. Elle milite également pour que les enfants, et en particulier les filles, aient accès à l'éducation. Donc c'est son histoire qu'elle raconte, mais aussi celle de 61 millions d'enfants non scolarisés dans le monde. Dans la deuxième partie, elle relate les menaces de mort à son encontre. Et malgré les précautions pour se rendre à l'école, elle sera victime d'un tireur embusqué. Elle est atteinte à la tête et son pronostic vital est réservé. Intervention chirurgicale. dans l'hôpital militaire d'Islamabad et l'armée va finalement autoriser son transfert dans un hôpital spécialisé à Birmingham, en Angleterre. Après une longue hospitalisation, de la rééducation, Malala reprend son combat, armée de papier et de stylo. Moi, je vais vous lire quelques extraits. J'ai encore l'espoir de pouvoir retourner dans le SWAT, revoir mes amis, mes professeurs, mon école, ma maison. Je rêve de devenir un jour une femme politique, influente au Pakistan. Malheureusement, Maulana Fazlullah, l'homme qui commandait les talibans du SWAT, qui m'ont tiré dessus, dirige à présent tous les talibans du Pakistan. Cela rend encore plus risqué mon retour au pays. Mais même s'il n'y avait aucune menace, je suis convaincue que je dois faire des études pour m'endurcir, me préparer pour le combat que je devrais certainement mener contre l'ignorance et le terrorisme. C'est vraiment son combat. Et d'ailleurs, elle dit, l'année dernière, j'ai milité inlassablement pour promouvoir l'enseignement par le biais de ma fondation, parce qu'il y a une fondation Malala actuellement. Je me suis rendue dans la zone de conflit pour faire prendre conscience aux gens des souffrances des enfants privés d'éducation. J'ai lancé des programmes en Jordanie, au Pakistan, au Kenya. Je me suis adressée aux dirigeants du monde entier et je les ai exhortés à augmenter le budget de l'éducation dans leurs pays respectifs, tout en poussant les nations les plus puissantes à augmenter l'aide à l'enseignement. Et enfin, elle dit, « Je remercie Dieu de m'avoir donné cette cause pour laquelle combattre. C'est à présent l'œuvre de ma vie et de mon rêve. » Donc, c'est vraiment une histoire pas banale, parce qu'elle est dramatique, mais il y a quand même de l'espoir, puisque Malala continue à militer et à s'investir dans sa mission tout au long de... tout en ayant encore ses études à poursuivre. Donc, c'était « Moi, Malala », écrit par Malala Yousafzai.
Vous parler d'un livre qui m'a particulièrement émue, qui s'appelle L'interlocutrice de Geneviève Peigné, paru toujours chez notre ami du Nouvel Attila. Avant de vous présenter ce livre, je voudrais que vous, avec Nathanaël, nous vous en lisions le début qui nous présente comment on a découvert que Odette, la maman de la narratrice, est atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Un samedi d'août, dans la grande rue commerçante et piétonne de la ville de R, Odette s'arrêtant, comme à l'accoutumée, pour donner une pièce de 10 francs, toujours au même mendiant. Celui qui retirait sa casquette pour la saluer et ne buvait pas l'argent qu'on lui donnait. Et s'exclamant très haut,
« Ah, vous êtes là, vous n'êtes pas parti en vacances ?»
Et moi, incapable de réussir à éclater de rire, accélérant le pas, la devançant, faire croire que non, Odette, je ne la connaissais pas.
3 mois plus tôt, dans le restaurant chic où nous avions rendez-vous tous quatre, Odette, Henri, leur gendre et moi, leur fille, pour fêter son 78e anniversaire, la voyant extirper d'une boîte de carton blanc des gélules et les étaler méticuleusement sur la nappe, ma malencontreuse initiative de m'enquérir de ce traitement qu'elle s'était inventé, à voix très haute,
« C'est que j'ai des selles molles !»
Mouvement aux tables voisines, têtes qui se retiennent de se tourner vers nous, mon père l'objurguant de parler moins fort, et Odette reprenant plus haut encore toute la salle aux aguets.
« Et pourquoi on m'empêcherait de dire que j'ai des selles molles ?»
Le mot n'est pas venu non plus ce jour-là.
Et presque une année de répit encore, avant cette matinée de juin 2001, où Odette, dans sa cuisine, entreprend de vider son lave-vaisselle et en range elle-même le contenu, chaque objet à sa place, indifférente au fait que le lave-vaisselle n'avait pas été mis en marche et qu'elle rangeait une vaisselle sale.
L'expression populaire « case du cerveau », il manque une case aveuglante soudain.
Dépression, longtemps, maladie psychique, dont les signes extérieurs se fondent si bien, si proche avec le second diagnostic de dégénérescence cérébrale, qu'il en profitera pour être longuement retardé.
Mais ce n'est pas tant de l'ALS de ma mère, pour dire le mot de la maladie un peu plus légèrement, que je parlerai. Je parlerai des pouvoirs de la lecture, de l'écriture, d'Odette lisant, écrivant.
Là où vous, lecteur, de votre côté de la page, Odette et moi, du côté où elle s'écrit, nous aurons le désir d'entrer en contact, peut-être.
Et si tel est le cas, devrons guetter l'accès. Alors c'est un court récit poignant, inspiré donc par la découverte, dans la bibliothèque de la mère de l'auteur morte récemment, de romans policiers de la collection Le Masque, émargés de notes manuscrites. Quelques mois après la mort d'Odette, donc, Geneviève Peignet découvre le journal intime de sa mère dans les marges. Au fur et à mesure de la progression de la maladie d'Alzheimer, elle s'immisce dans les dialogues, répond aux répliques des personnages ou souligne des phrases. Je vais vous donner quelques exemples. À la page 156, dans le texte d'Ex-Braya, il est écrit, donc dans le livre, « Une tasse de thé va avec du lait » et de la main manuscrite d'Odette dans la marge. « Pas de thé pour moi, non ?» Il y a aussi « Une tasse me ferait du bien » et elle, dans la marge, « Moi aussi, du décaféiné. » « Tu veux un autre thé, une bonne gorgée de thé ?» et elle, dans la marge, « Moche, elle aime boire du thé quand elle est mal en point. Pas moi. » Ou alors une autre phrase, « Que Franck sorte son champagne. » Et elle répond, dans la marge, « Oui, oui, j'aime ça. » Ou encore, page 43, sur une feuille de livre photocopiée avec la vraie écriture d'Odette, un extrait de « Quand Mario reviendra » d'Ex-Braya. Conchetta ne pouvait parvenir à dormir. Et dans la marge, « Comme moi, mal à mes deux yeux, je voudrais bien dormir le soir avec de l'avane. J'en prends tous les soirs. » Alors, l'avane, il y a un petit point d'interrogation à côté, donc on ne sait pas trop ce que c'est que l'avane. Et souvent, donc, Odette écrit dans la marge sa douleur, cystite, mal à la jambe. Elle parle de son corps, de ses besoins élémentaires contrariés, le corps qui s'y impose. Et entre les lignes, se crée post-mortem une étrange relation mère-fille, la fille qui retrouve sa mère. Le récit est court, une centaine de pages, avec une vingtaine de facsimilés. Et c'est un récit qui est vraiment très fort, très très original, ce qui ne m'étonne pas de la part du nouvel Attila, qui n'hésite pas à publier ce genre de livre complètement... c'est pas un roman, c'est un récit, mais c'est un petit peu un ovni, et c'est vraiment très 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 joli, très très émouvant. Je vous en rappelle le titre, Geneviève Peignet, l'interlocutrice, paru au Nouvel Attila. David va maintenant vous présenter « Le rire de l'ogre » de Pierre Péjut, paru chez Gallimard.
Oui, bonjour. Donc, « Le rire de l'ogre » de Pierre Péjut. Trois mots d'abord sur l'auteur. Peut-être pas très connu. C'est un écrivain de 70 ans qui fait tous les métiers. Journaliste, critique littéraire, notamment à la quinzaine littéraire, professeur de philo dans sa première vie, toujours philosophe en tant que directeur de programme au Collège international de philosophie, auteur de contes pour enfants, spécialiste de l'enfance. Alors le roman Le rire de l'ogre, un bien curieux titre. C'est un roman qui est remarquablement construit, structuré en deux parties, et couvrant pratiquement un siècle de l'histoire de l'Europe entre 1941 et 2037, mettant en scène le personnage principal Paul Marlowe, ainsi que beaucoup d'autres personnages de l'armée allemande, du monde de la culture. Voilà, c'est une fresque monumentale dans laquelle se joue à la fois le destin de Paul et la transformation de l'Europe à travers la guerre et ses ignominies. L'histoire, elle fait référence explicite au drame indélébile de la Deuxième Guerre mondiale, le massacre des Juifs en Ukraine, en 1941 précisément, ce que l'on a appelé la Shoah par balle, précurseur des exécutions en masse par gazage dans les camps d'extermination en Pologne, entre autres. Le rire de l'ogre, une énigme explicite sur le mal absolu. Certes, il est connu que l'ogre, fantasmé ou réel, obéit à sa condition qui est de croquer avec délice de jeunes enfants à la chair fraîche et frémissante. Mais en l'occurrence, pour les ramener à la vie, il les a déjà étranglés par inadvertance pendant son sommeil, il lui faut passer par le truchement d'une jeune femme, voyante extra-lucide, une fée. Alors les enfants, garçons et filles, reviendront à la vie. Mais tout a un prix, la jeune fille y perd sa jeunesse, devient vieille, ridée et dentée. Elle paie, d'une certaine façon, ce qu'elle a appris au travers d'un cristal révélateur sur la vie, la mort, la destinée. Je vais lire juste un petit passage du prologue qui parle justement de cette histoire de l'ogre. Alors, un jour, en pleine forêt, l'ogre rencontra un petit garçon et une petite fille complètement perdus. Parents morts, village brûlé, personne au monde. Il se pencha vers eux pour leur demander de façon doucereuse s'ils n'avaient pas besoin d'aide. Puis il saisit leurs petites mains dans ses gigantesques pognes et les entraîna dans un de ces chemins qui ne mènent nulle part. Le chemin s'achevait par une clairière au milieu des fleurs et des hautes herbes, l'eau limpide d'une fontaine coulait dans un tronc d'arbre. Les enfants ne seraient pas allés bien loin, ils tombaient de sommeil. Brusquement, l'ogre les tira en arrière afin de boire à son tour, ce qui vida momentanément la fontaine. Un peu plus loin, les enfants dormaient profondément, mais afin qu'ils ne risquent pas de s'enfuir, l'ogre les serra très fort contre sa poitrine en enlaçant leur cou dans le creux de ses bras. Il maintenait fermement le garçon dans l'étau de son bras droit et la fille dans l'étau de son bras gauche, serrant de plus en plus, tout en dormant, il les étouffait, les étranglait. Quand il s'éveilla, les corps minuscules étaient inertes contre le ventre de l'ogre. C'est là qu'intervient la fée. C'est alors qu'il remarqua qu'une jeune fille était assise au bord de la fontaine, comme surgie de l'eau. L'ogre la fixait bouche bée. « Si tu veux, je peux les ramener à la vie, » déclara-t-elle en faisant un charmant mouvement de menton en direction des deux petits cadavres. « Vraiment ?» demanda l'ogre, disposé à croire en n'importe quoi. « Oui, c'est facile. Il me faut seulement les observer longtemps et parvenir à voir certaines choses. Mais quelles choses et comment vas-tu t'y prendre ? Je dois regarder à travers ce fragment de cristal, » dit-elle en plaçant devant son œil un caillou bleuté et translucide. Et alors, si en examinant leurs traits, je parviens grâce à mon cristal à voir distinctement toute leur vie, pas seulement leur naissance, leur enfance, mais aussi l'existence qu'ils auraient menée, si tu n'avais pas fait l'idiot, eh bien, ils vivraient à nouveau. Fais-le, implora l'ogre. Donc ça continue. Donc elle arrive à les remettre en vie. Alors vite, examine-les, vois ce que tu dois faire. Dépêche-toi, mademoiselle. Et à la fin, l'ogre considérait les enfants, donc ils ont revécu. L'ogre, ils sont ressuscités, considérait les enfants avec étonnement. Ils n'avaient plus du tout envie de chair fraîche. Pour la première fois, l'odeur de la viande enfantine lui donnait la nausée. Il regardait fixement cette vieille femme assise au bord de la fontaine. Elle était devenue une sorcière aux yeux vides. Parce que tout a un prix, finalement. La fée arrive à faire renaître les enfants, mais elle le paye de sa beauté, de sa jeunesse, et elle devient vieille et sorcière. Alors, l'ogre éclata de rire. C'était un rire fou, un rire immense, dont l'écho se répercutait dans la clairière, un rire qui secouait l'arbre auquel il était adossé. Les petits en profitèrent pour s'arracher à l'étreinte et faire quelques pas hésitants, tandis que l'ogre à demi allongé riait de plus en plus fort. Il arracha une branche de fleurs qu'il se fourra dans la bouche et qu'il mâcha, puis une grosse touffe d'herbe et même de la mousse. Il se goinfrait de tout ce végétal et s'étouffait seulement tellement il riait. Voilà, donc l'ogre était devenu végétarien. Alors, cette image de l'ogre qui donne donc le titre au roman, elle va être, on va la rencontrer tout au long, plus ou moins explicitement, tout au long du roman. Donc le roman, se passe en deux parties, avec une extension géographique entre l'Allemagne et la France, et c'est l'histoire de Paul Marlowe, donc le héros de ce livre, qui a 16 ans au début du roman, et qui est en résidence chez un correspondant dans le bourg de Kelstein, en Bavière. Paul Marlowe a l'habitude de crayonner sans arrêt. Il a toujours un carnet et un crayon et il griffonne. Je crois que le terme est bon, griffonne, c'est-à-dire qu'il griffe. Il cherche à dénouer une énigme, il cherche à dénouer quelque chose. C'est un garçon qui a eu sa vie aussi, il avait 16 ans, il a déjà pas mal d'expérience. Bon, il a plus de papa qui a été assassiné au jardin du Luxembourg, entre autres. Et donc on suit donc sa vie. Il commence par crayonner et puis au cours du temps il se met à travailler des matières, des matériaux. Donc il passe en fait du dessin à la sculpture et il devient un sculpteur, un grand sculpteur. Bon, j'abrège un peu parce que le roman est tellement foisonnant que c'est difficile de tout résumer. Il devient donc un grand sculpteur, et ce que l'on remarque comme thème porteur dans son roman, c'est d'une part la pierre, le matériau, la pierre ou le bois et ou le fer, et ce qu'il veut en tirer. C'est un garçon qui cherche à pénétrer la matière, je crois que c'est ça qui est important, et à révéler en quelque sorte la nature. Je dirais, moi, j'ai parlé tout à l'heure de mal absolu, et peut-être même un peu plus, puisque ça commence quand même par les exécutions en masse en Ukraine, et donc de révéler le mal et la banalité du mal. Ça fait penser effectivement à Hannah Arendt avec le cas Eichmann, lorsqu'elle avait couvert pour un journal américain le procès Eichmann à Jérusalem, et où elle avait donc fait cette proposition qui n'était pas vraiment une thèse, qui était que le mal était quelque chose de banal, répandu, mais répandu dans les individus, un peu plus que dans le monde. Enfin, la banalité du mal, c'est quelque chose qui nous habite, qui habite tout le monde, et auquel on ne fait peut-être pas suffisamment attention. Donc ça, c'est un des thèmes. L'autre thème, c'est la solitude. Bon, c'est un peu la solitude de Paul Marlowe. C'est aussi le titre qu'il donne à sa première œuvre gravée, enfin, sa première œuvre sculptée, qui est faite à partir d'un vieux madrier tout noirci, et dans lequel il sculpte quelque chose, un personnage, qu'il va déposer dans un. À l'époque, il travaille vers la porte des Lilas et il fréquente un café qui s'appelle le Canon des Lilas. Voilà, donc Paul Marlot, qui devient donc ce célèbre sculpteur, est hanté, habité par cette attirance pour non pas enfin la sculpture, mais la sculpture en tant que moyen de pénétrer le réel. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faudrait le dire. Pénétrer le réel, c'est-à-dire partir de la réalité et trouver l'importance du réel. Alors je voudrais vous lire juste pour terminer. En vous lisant quelque chose qui m'a particulièrement frappé, qui est donc l'histoire du ventre. Je suis sang et eau car j'affronte une créature de pierre et de métal que j'ai nommée le ventre de la bête. Ce n'est pas anodin. Bloc énorme en pierre de Bourgogne, plus large que haut, avec des arêtes coupantes, crâne difforme et monstre endormi. C'est un sourire terrifiant, un sourire sans visage, une fente comme une huître qui s'entr'ouvre, un gouffre derrière une fêlure. Et à l'intérieur, j'ai fourré 100 kilos de fils de fer barbelés tassé avec une barre, 100 kilos de rouille pour déchirer les chairs pantelantes. Sourire trompeur, patience et déchirure. On peut tourner autour de l'objet, on aperçoit la quantité de barbelés que sous un angle unique, en se penchant un peu entre les plis du ventre obèse. Voilà, je voulais terminer par cette image du faux-semblant, et du ventre de la bête. On a beaucoup parlé aussi de la bête, du retour de la bête immonde. Donc voilà, je ne vous ai pas raconté l'histoire, je vous ai simplement donné peut-être l'envie de vivre avec ce livre comme moi-même je l'ai fait pendant 15 jours où je n'arrivais pas à sortir de ce livre parce que je cherchais aussi le projet de Pierre Péjus. Et je trouve que Pierre Péjus est vraiment un écrivain de grande valeur. Et j'ai lu entre-temps un autre livre qu'il avait écrit 2 ans avant, qui s'appelle La Petite Chartreuse. Et c'est remarquable, c'est de la même force, c'est une écriture vigoureuse, un vocabulaire d'une précision chirurgicale. Donc je rappelle le titre, Le Rire de l'Ogre, de Pierre Péjus, chez Gallimard.
Bonjour. Alors, je vais vous présenter un livre de Vikas Svarup, S-W-A-R-U-P, pour quelques milliards et une roupie. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est une lectrice qui m'a conseillé ce livre et j'ai suivi son avis et je me suis régalée. Alors, Vikas Svarup, c'est un Indien, il est né en 1961 à Allahabad, il est écrivain et surtout diplomate, et il a fait tous les pays, la Turquie, les USA, l'Éthiopie, la Grande-Bretagne, aujourd'hui la Pretoria, en tant que haut commissaire aux Nations Unies, mais surtout, il a connu une consécration mondiale avec son premier livre, Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux, qui devint milliardaire en 2005, qui a été adapté au cinéma, et ça on en a à peu près tous entendu parler, sous le titre de Slumdog Millionnaire, qui a reçu 8 Oscars en 2009. Notre auteur à succès a écrit un deuxième roman, Meurtre dans un jardin indien en 2008, et son troisième roman, Pour quelques milliards et une roupie, a été édité en 2014 en Inde et immédiatement traduit en français. Alors, que nous raconte ce roman ? Alors, l'histoire d'une jeune femme, vendeuse en électroménager, qui entretient toute sa famille quand son père est décédé. Elle est harcelée chaque jour par son patron qui est vraiment pas sympathique. Sa starlette de sœur en devenir la harcèle pour avoir tous les derniers objets et à la mode et autres. Son propriétaire, qui n'est rien d'autre que son oncle cupide, souhaite mettre sa mère et sa sœur dehors ainsi qu'elle-même. Bref, elle se bat comme elle peut, enfin, de résoudre tous ses ennuis. Et elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Et c'est ce prologue que nous allons vous lire avec Sylvie, c'est-à-dire cette rencontre de cette jeune femme qui se débat donc avec les soucis matériels, qui va faire vraiment une rencontre très particulière. En plus, le prologue nous met tout de suite dans le mystère, car elle est dans une position pour le moins inconfortable.
Dans la vie, on n'obtient jamais ce qu'on mérite. On obtient ce qu'on a négocié. C'est la première chose qu'il m'a enseignée. Voici 3 jours que je tente de mettre ce conseil en pratique, négociant fébrilement avec mes accusateurs et persécuteurs pour essayer désespérément d'échapper à la peine de mort qu'ils me réservent d'un commun accord.
Dehors, les médias guettent comme des vautours. Les chaînes d'information font leur chou gras de mon histoire, exemple édifiant de ce qui arrive quand une collision entre cupidité et crédulité débouche sur une catastrophe sanglante dite homicide volontaire avec préméditation.
Confinée dans ma cellule aveugle et étouffante, je repense au jour fatidique où tout a commencé. Bien que cela remonte à plus de 6 mois déjà, je me souviens de chaque détail aussi clairement que si c'était hier. Je me revois me dirigeant vers le temple d'Hanuman dans Connaught Place par cet après-midi gris et froid.
Nous sommes le vendredi 10 décembre et dans Baba Karak Singh Mark, c'est le tohu-bohu habituel, mélange chaotique de bruit et de chaleur. S'y croisent des bus brinque-ballants, des voitures qui klaxonnent, des scooters pétaradants et des auto-rickshaws hoquetants. Pas un nuage dans le ciel, mais le soleil est masqué par le cocktail toxique de la pollution qui s'abat l'hiver sur la ville.
Prudente, j'ai troqué ma tenue de travail contre un modeste salwar kameez bleu ciel sur lequel j'ai enfilé un cardigan gris. C'est un rituel que j'observe tous les vendredis. Je quitte en douce le magasin à l'heure du déjeuner et traverse la place pour me rendre au vieux temple du dieu singe Hanuman.
Lorraine Lockwood, mon amie américaine, n'en revient toujours pas que nous ayons 330 millions de dieux. Bon sang, vous autres hindous, vous savez vous entourer. D'accord, elle exagère. Mais il est vrai que tout temple digne de ce nom abrite les autels d'au moins 5 ou 6 autres divinités. Chacune d'elles possède des pouvoirs particuliers. La déesse Durga est l'invincible qui rattrape les situations les plus désespérées.
Le temple est bondé, ce qui est plutôt rare pour un vendredi après-midi, et je me trouve prise dans le flot incessant des fidèles jouant des coudes pour accéder au Saint des Saints. Le sol de marbre est frais sous mes pieds nus et l'air embaume le mélange capiteux de sueur, de santal, de fleurs et d'encens.
Je me joins à la file d'attente réservée aux dames, qui est nettement plus courte, et j'arrive à communier avec Durgama en moins de 10 minutes.
Mon darshan, le tête-à-tête avec Dieu, achevé, je m'apprête à descendre les marches quand une main s'abat sur mon épaule. Je pivote et me retrouve face à un homme qui me dévisage intensément.
Lorsqu'un inconnu aborde une jeune femme à Delhi, le premier réflexe de celle-ci est d'attraper la bouteille de spray au poivre qu'elle garde toujours à portée de main. Mais celui qui me fait face n'a rien d'un traîne-sava désœuvré.
C'est un monsieur âgé, vêtu d'un pyjama kurta en soie blanc cassé, un pashmina blanc drapé négligemment sur les épaules. Grand, la peau claire, il a un nez aquilin, une bouche dure et déterminée, et son visage est encadré d'une crinière blanche comme la neige, coiffée en arrière.
Un tika vermillon lui orne le front. Ses doigts sont chargés de bagues serties de diamants et d'émeraudes. Mais c'est son regard pénétrant qui me trouble le plus. Il me fixe si franchement que c'en est intimidant. Voici un homme qui a manifestement l'habitude de commander.
« Puis-je vous dire deux mots ?» demande-t-il d'une voix saccadée.
« Qu'est-ce que vous voulez ?» Je prends un ton sec, mais moins acerbe que d'ordinaire, eu égard à son âge.
« Je m'appelle Vinay Mohan Acharya, » dit-il posément, « et je dirige Acharya Business Consortium. Avez-vous entendu parler du groupe ABC ?»
Je hausse les sourcils en guise d'assentiment. Il s'agit d'un des plus gros groupes industriels en Inde, qui produit de tout, depuis le dentifrice jusqu'aux turbines.
J'ai une proposition à vous faire qui va changer radicalement le cours de votre vie. Donnez-moi 10 minutes et je vous expliquerai.
Ces paroles, je les ai déjà entendues maintes fois. Dans la bouche de courtiers en assurance, qui viennent vous relancer chez vous, et des représentants de commerce qui font du porte-à-porte pour vendre des produits d'entretien. « Je n'ai pas 10 minutes, dis-je. Il faut que je retourne travailler. »«
Écoutez-moi au moins, insiste-t-il. »«
Eh bien, allez-y. »«
J'aimerais vous offrir la chance de devenir PDG du groupe ABC, c'est-à-dire la direction d'un empire financier d'une valeur de 10 milliards de dollars. »«
Je sais maintenant qu'il faut se méfier de lui. » Il parle comme un escroc, comme ces vendeurs à la sauvette dans Jean Pat qui cherchent à vous fourguer des ceintures en faux cuir et des paquets de mouchoirs bon marché. Je guette le demi-sourire qui me prouverait qu'il plaisante, mais son visage demeure impassible. « Ça ne m'intéresse pas, lui dis-je fermement en commençant à descendre. » Il m'emboîte le pas.
« Vous êtes en train de me dire que vous refusez l'offre du siècle ? Plus d'argent que vous n'en gagneriez en l'espace de cette vie ?»
Sa voix est cinglante comme un coup de fouet. « Écoutez, monsieur Acharya, ou qui que vous soyez, j'ignore à quoi vous jouez, mais je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Alors soyez gentil, cessez de me harceler. » Je récupère mes mules bata auprès de la vieille dame à l'entrée du temple qui garde les chaussures moyennant un petit pourboire.
« Vous devez croire qu'il s'agit d'une blague, » déclare-t-il en enfilant une paire de sandales marron.
« Pourquoi ? C'en est pas une ?»
Je n'ai jamais été aussi sérieux.
Dans ce cas, vous devez faire partie d'une émission de style caméra cachée et au moment où je dirai oui, vous me montrerez toutes ces caméras que vous suivez partout.
Vous voyez un homme de mon âge participer à des émissions débiles ?
Ma foi, ce n'est pas plus débile que d'offrir votre empire financier à de parfaits inconnus. Je me demande même si vous êtes bien celui que vous prétendez être.
Bien vu.
Il hoche la tête.
Un fond de scepticisme, c'est toujours sain.
Il sort un portefeuille en cuir noir de sa kurta et me tend une carte de visite.
Peut-être que ceci finira de vous convaincre.
J'y jette un rapide coup d'œil. C'est impressionnant. Une sorte de plastique translucide avec le logo du groupe ABC en relief et Vinay Mohan Acharya, président gravé en gras. N'importe qui peut faire imprimer ça pour quelques centaines de roupies, dis-je, en lui rendant sa carte.
Il en tire une autre de son portefeuille. Et celle-ci ? C'est une carte Centurion d'American Express, toute noire, au nom de Vinay Mohan Acharya. J'ai rencontré cette espèce rare une seule fois, quand un entrepreneur bling-bling de Noida l'a sorti pour payer un téléviseur Sony LX900 de 60 pouces qui valait presque 400 000 roupies.
Ça ne change pas grand-chose, je hausse les épaules. Comment puis-je savoir que ce n'est pas une fosse ?
Nous avons déjà traversé le parvis du temple et nous approchons de la route. Voici ma voiture, dit-il en désignant une auto rutilante garée le long du trottoir.
Un chauffeur en casquette et uniforme blanc est assis au volant. Un homme armé en treillis émerge du siège avant et se fige au garde-à-vous. Ashraya fait claquer ses doigts et l'homme se précipite pour ouvrir la portière arrière. Son zèle servile n'a rien de fin. Il est le fruit de longues années d'obéissance inconditionnelle. Je note, admirative, que la voiture est une Mercedes SL500 gris argenté dont le prix va chercher dans les 9 millions de roupies.
Une seconde, dit Ashraya en se baissant. Il attrape un magazine sur le siège arrière et me le tend. Je l'avais gardé en dernier recours. Si avec ça vous n'êtes pas convaincu, alors il n'y a plus rien à faire. C'est un exemplaire du Business Times, daté de décembre 2008, avec un portrait en couverture et le gros titre « L'homme d'affaires de l'année ». Je regarde son visage, puis l'homme qui se tient en face de moi.
Pas de doute. C'est la même crinière blanche rejetée en arrière, le même nez busqué, les mêmes yeux perçants. Je suis bien devant l'industriel Vinay Mohan Ashraya. Ok, je concède. Vous êtes donc monsieur Ashraya. Qu'est-ce que vous me voulez ?
Je viens de vous le dire, vous nommez à la tête de mon groupe.
Et vous imaginez que je vais vous croire ? Alors, notre jeune héroïne va être confrontée à tant de difficultés financières que finalement, elle va accepter cette offre pour le moins étrange. Et la condition pour qu'elle puisse passer à la tête de ce fameux groupe industriel, c'est qu'elle passe cette mystérieuse épreuve. Elle va être embarquée malgré elle du coup, car elle va accepter de les passer, ces épreuves, dans des histoires un peu incroyables. Et ces histoires incroyables, c'est en fait ces épreuves, nous montrent une société indienne fortement contrastée. Sa première épreuve, elle va être confrontée au mariage forcé en campagne. Dans une campagne, et elle va éviter que la jeune femme se suicide. La deuxième, enfin je vous raconte pas tous les tenants et les aboutissants de chaque épreuve, elle va être avec une star de Bollywood qui se retrouve à vanter les mérites de machines à laver et autres, et va la sortir aussi d'embarras. Elle va aussi être confrontée au travail illicite des enfants dans une espèce d'usine complètement sordide. Et chaque fois, elle devra se comporter d'une certaine manière. En fait, elle se comporte telle qu'elle suit son instinct. Toutes ces épreuves nous montrent une société indienne pour moi, qui n'ait très peu de connaissances sur cette société, surtout contemporaine, assez intéressant. On va même voir une vieille voisine qui fait partie en fait des gens qui croient encore dans la non-violence et dans toute la croyance de Gandhi, qui va faire un sitting contre la corruption. Et chaque fois, elle se trouve mêlée. Donc, certains pourront trouver ça un petit peu artificiel, car toutes ces épreuves nous permettent de voir comme en cadélioscope, enfin comme des petits éclairages, les problèmes de la société indienne d'aujourd'hui. Pour moi, cela a été une ouverture et une entrée justement sur cette société où il y a autant de la modernité. Lors du mariage forcé, on voit un vieux paysan, mais qui est très riche, qui achète un tas de machines à laver et électroménager. Voilà, électroménager pour sa fille en guise de dot. Et en fait, la jeune femme, donc notre héroïne, est obligée de venir sur place pour les faire marcher. Et deux, de toute manière, il n'y a pas d'électricité pour les faire fonctionner. Donc c'est tout ce contraste de cette société qui, d'un côté, est encore presque arriérée, qui est vraiment très... Et cette modernité qui fait irruption, cette modernité bling-bling, sa sœur, elle, va être confrontée à un espèce de The Voice où elle va, hélas, être la proie de producteurs pour le moins véreux. Donc, c'est ça qui m'a plu, c'est cet éclairage sur différents aspects de la société indienne. Donc, je vous ai présenté pour quelques milliards et une roupie de Vikas Swarup, et je vous laisse découvrir, bien sûr, en lisant ce livre, si à la fin, 1, elle réussit ses épreuves, et si 2, elle va être PDG de cette fameuse de ce fameux grand groupe ABC.
Olivia va maintenant vous présenter Continuer de Laurent Mauvigné.
Alors, moi, c'est carrément toute son œuvre qui m'intéresse chez Laurent Mauvigné. Et en voici pour preuve, parce qu'il creuse des thèmes et récurrents dans chaque livre. Et pour preuve, je vais vous lire une citation de son livre précédent, Autour du monde, page 282. Alors, pour qui ? Pourquoi continuer ? Comme ça, continuer quoi? Est-ce qu'il continue et que ça continue? Ça continue, mais qu'est-ce qui continue? Oui, ça continue. Ça continue à ne pas avancer. Dans ce livre-là, mère et fils, construits sur des fissures, partent vivre plusieurs mois au Kirghizistan. Et cette histoire est inspirée d'un article du Monde. Derrière cette mère qui donne tout, tente tout, puisqu'elle va même vendre une maison pour avoir les finances, pour partir, il y a une femme à reconstruire. Elle a appelé son fils Samuel parce qu'elle a eu fait des études de médecine, elle a eu commencé un roman et elle aime énormément Samuel Beckett. D'ailleurs, on voit l'influence de Samuel Beckett chez l'auteur. Sur une écriture libre qui creuse, interroge. Et d'ailleurs, Laurent Mauvigné a pas mal écrit pour le théâtre aussi. Je vous lis une citation du livre. Samuel décroché à tous les niveaux, c'est un adolescent, hein, scolaire, mais pas seulement, comme si même dans sa façon d'être, soudain, plus rien ne répondait. Il se fait donc entraîner par des copains skinhead. Et évidemment, la peur, c'est un thème de ce livre, mais finalement, la peur, on va la retrouver dans tous les personnages et dans toute sa complexité. Je vous lis à nouveau une citation de Autour du monde, page 293. Quand on part si loin de chez soi, ce qu'on trouve parfois derrière le masque du dépaysement, c'est l'arrière-pays mental de nos terreurs. C'est donc aussi un roman intelligent et courageux contre le racisme, incarné par un ado, mais pas que. Et là, je vous laisse des surprises. Le temps, le silence, la relation privilégiée, les chevaux, l'immersion dans une autre culture font leur travail souterrain. Face au danger, Samuel devient enfin actif. La mère écrit tous les jours pendant que son fils écoute sa musique, et ses carnets auront leur importance en temps voulu, révélant ce qui ne peut être dit, éclairant les coins obscurs de leur histoire. En fait, l'auteur cherche l'endroit où quelque chose peut se passer, où des décisions, des changements sont possibles, où les êtres peuvent grandir et se retrouver avec eux-mêmes. Page 239, c'est dans la fin du livre. Samuel ne sait pas pourquoi il le dit, mais il le dit en murmurant. « On finira notre voyage, maman. On va continuer. On le fera. Il faut qu'on continue. Il faut, oui, tous les deux, toi et moi. » C'est « Continuer » de Laurent Mauvigné.
Notre émission va s'achever. Aujourd'hui, nous vous avons présenté Marx et la poupée de Marianne Majidi, paru au Nouvel Attila. Moi, Malala, l'interlocutrice de Geneviève Peigné, le rire de l'ogre de Pierre Péju, pour quelques milliards de roupies de Vikas Swarup, et continuer de Laurent Mauvigné. Alors nous avons quelques rendez-vous à vous proposer.
Le jeudi 23 février, le mardi 28 février, comité de lecture spécial prix littéraire de la DLVA, où nous parlerons des 11 livres présélectionnés et des modalités de vote pour en fait commencer à retenir 4 livres et donc 4 auteurs susceptibles d'être invités.
Voilà, tout ça pour le prix littéraire de la DLVA. Le lundi 20 mars, le matin, nous organisons un atelier de poésie et de lecture à haute voix animé par Julien Delmer, l'auteur en résidence à la médiathèque de Manosque.
Le mardi 21 mars à 18h, comité de lecture où tout le monde est bienvenu.
Comme d'habitude, le troisième mardi de chaque mois. Et le mardi 18 avril à 18h, un comité de lecture sur la littérature italienne en collaboration avec le comité de jumelage Manosque-Voghera qui nous a offert comme chaque année un lot de livres italiens traduits en français. Voilà, donc tout ça, c'est les prochains rendez-vous jusqu'au 18 avril. Il y aura également des dates, vous pourrez vous renseigner dans les médiathèques et dans beaucoup d'endroits à Manosque pour le printemps des poètes. Là, nous n'avons pas encore toutes les dates, donc on vous communique pas. Mais voilà, sachez qu'il y aura beaucoup de choses aussi à faire pendant le printemps des poètes. Et on vous donne rendez-vous sinon à notre prochain comité de lecture et sur les ondes de Fréquence Mistral. Et merci à notre technicienne Emeline.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.